enjeu de la longévité.
Je voulais d'abord remercier les organisateurs, en particulier Pierre Corvol et Joël Menard, de m'avoir invité à cette manifestation prestigieuse. Et je dois dire que j'étais absolument fascinée par les deux interventions précédentes. Je n'étais malheureusement pas là hier. Alors, les enjeux de la longévité sont des enjeux, bien évidemment, qui sont les enjeux de la majorité des pays à la fois développés et en voie de développement. Et on peut dire que l'accroissement de la longévité, ou plus exactement l'accroissement de l'espérance moyenne de vie, c'est un privilège pour l'instant des nations développées, mais à deux conditions. À condition que la majorité de la population soit active, et c'est un sacré problème en France, je peux vous le dire. Et deuxièmement, ce qui nous concerne, nous, davantage, bien sûr, acteurs du système de santé, à condition que cette population soit en bonne santé. Alors, la population française va voir l'augmentation de tous les pays de la population de plus de 65 ans, de plus de 75 ans et de plus de 85 ans. Ce qui est peut-être le plus important pour les comptes sociaux, c'est probablement l'augmentation prévisible de la population de plus de 85 ans que vous voyez ici. Alors, quand on regarde l'Europe à l'intérieur du monde, on voit d'abord qu'il y a une augmentation considérable de la population mondiale qui va se faire entre les années 2000 et les années 2030. Mais cette augmentation de la population mondiale, elle se fait uniquement, comme vous le voyez ici, dans ce qu'on appelle les pays émergents. L'Asie, l'Inde, l'Afrique. Elle ne se fait pas du tout, par contre, en Europe, où on va connaître une diminution de notre population. Et on voit combien l'Europe, finalement, est toute petite par rapport à la population mondiale de façon générale. Par contre, quels que soient les pays dont la population augmente ou les pays dont la population diminue, comme les nôtres, on peut voir que tous partagent une augmentation de ce qu'on appelle le dependency ratio, c'est-à-dire la proportion des personnes de plus de 65 ans et des personnes de 15 à 64 ans. Et là, on voit que, par contre, en Europe, on a une augmentation très considérable de ce ratio de dépendance, dependency ratio. L'autre pays qui a peut-être l'augmentation la plus importante aussi étant, comme vous le voyez ici, le Japon. Quand on voit l'évolution en Europe, cette fois-ci, entre les années 95 et les années 2000, on voit qu'il y aura effectivement à un moment un croisement des courbes avec une diminution en bleu de la population de 15 à 24 ans, cette fois-ci, comparé à l'augmentation de la population de 55 à 64 ans, ce qui pose des problèmes de financement, bien évidemment, des systèmes de santé avec les systèmes économiques que nous connaissons. Alors, le nombre de plus de 65 ans va augmenter dans le monde entier, comme vous voyez ici très rapidement ces chiffres, mais on peut dire que la population sera essentiellement féminine et que le vrai problème de l'augmentation de l'espérance moyenne de vie va être essentiellement un problème féminin. Vous voyez 237 contre 182 pour les hommes. Alors, en France, 20% de la population a plus de 60 ans. Nous connaissons une espérance moyenne de vie qui, dans l'ensemble, est bonne, de 77 ans pour les hommes maintenant et de 84 ans pour les femmes. Et c'est, tout sexe confondu, un peu plus de 80 ans. Mais ça recoupe les autres données, bien évidemment, de la majorité des pays européens. Alors, le problème en France, comme dans d'autres pays, c'est l'inégalité dans cette espérance moyenne de vie. Tout le monde ne jouit pas de cette augmentation de l'espérance moyenne de vie de la même façon. Et vous voyez ici la différence entre les cadres et professions libérales et les ouvriers, chez les hommes en particulier. Vous voyez qu'à 60 ans, il y a 5 ans de différence entre les cadres et les professions libérales, 17 contre 22. Vous voyez qu'il existe aussi une différence chez les femmes, mais que chez les femmes, elle est moins marquée. Nous résistons à tout, même à la catégorie socio-professionnelle. C'est la même chose pour la différence de région. Quand vous naissez, vous habitez en Nord-Pas-de-Calais, par exemple, et là, c'est l'espérance moyenne de vie à la naissance, et bien vous observez de la même façon chez les hommes une différence de 5 ans d'espérance moyenne de vie selon que vous vivez dans la région parisienne ou que vous vivez dans le Nord-Pas-de-Calais. Là encore, il existe une différence chez les femmes, mais la différence est moins marquée. Donc un problème va être pour la France de réduire, et c'est la même chose pour les autres pays, de réduire ces inégalités. Dans l'ensemble, la population des seniors en France est une population en bonne santé quand on prend comme témoin de cette bonne santé ce que nous appelons en France la dépendance, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Ce terme de dependency n'existe pas en réalité dans les autres pays, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des soins de longue durée, que ce soit à domicile ou que ce soit en institution. Ben, vous pouvez voir ici que si l'on prend l'ensemble de la population de plus de 60 ans, seul, mettons 7%, de la population française de plus de 60 ans est ce que nous appelons, nous, dépendante, c'est-à-dire en perte d'autonomie qui est liée nécessairement à une maladie invalidante, maladie dite liée à l'âge. Il n'y a pas de dépendance sans maladie, je voudrais le redire. Alors, bien évidemment, cette dépendance augmente avec l'âge. Si vous voyez la population de 60 à 69 ans, qui est une population très importante quand vous considérez qu'on pourrait l'inclure dans le circuit économique du pays, vous voyez que 2% seulement de la population de 60 à 69 ans est dépendante. Bien entendu, ces chiffres augmentent avec l'âge, mais on peut voir que moins de 5% de la population de 60 à 79 ans est atteinte de maladies invalidantes, source de perte d'autonomie, que si vous considérez la population de 80 à 89 ans, c'est déjà un âge, hein, 80 à 89 ans, vous voyez que moins de 20% de cette population est atteinte de maladies invalidantes, source de perte d'autonomie. Bien évidemment, à plus de 90 ans, il existe un risque probablement supplémentaire, mais on peut considérer que plus de la moitié quand même de la population de plus de 90 ans est une population autonome. Alors, il y a quelques différences entre les hommes et les femmes, et en particulier à partir de 80 ans, la dépendance est moins importante chez les hommes que chez les femmes. Et si vous considérez la population de plus de 90 ans des hommes, tout au moins ce qu'il en reste, car comme vous le savez, c'est une population fragile, la population de sexe masculin, eh bien, ils sont fragiles, mais ils restent des chefs-d'œuvre fragiles, puisque seuls 30% d'entre eux est dépendant, ce qui veut dire que 70% des hommes de plus de 90 ans est autonome dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint de maladies suffisamment importantes et invalidantes pour avoir une perte d'autonomie. Mais dans l'ensemble, pour la population globale, c'est 42%. Donc il faut retenir ce chiffre, 7% seulement de la population est dépendante en France. Et je vous dis, les chiffres sont comparables à condition de pouvoir comparer les critères de dépendance. Quand on considère le logement, puisque la crainte de chacun d'entre nous, là encore, est de finir ses jours dans une institution, que ce soit un long séjour hospitalier ou que ce soit une maison de retraite dite médicalisée. Eh bien, vous voyez aussi que jusqu'à 85 ans, 90% de la population vit normalement à son domicile, le plus souvent aux âges avancés, bien évidemment avec des aides, hein, ce qu'on appelle le soin à domicile, mais 90% de la population jusqu'à 85 ans vit à son domicile. Prenez la tranche d'âge supérieure, 85-90 ans, 80% vit à son domicile, ça veut dire que 20% seulement de cette population vit en institution. Et à plus de 90 ans, ce qui là encore est un âge avancé, vous voyez que 64% de la population vit encore à son domicile. Donc ça doit donner quand même une image plus optimiste du très grand âge. Car de façon générale en France et de façon générale dans le monde, on a une vision qui est une vision plutôt pessimiste de ce qui peut vous arriver après 80 ans. Alors, en chiffres absolus, cependant, ça représente un poids, hein, pour une nation, puisque quand on prend comme critère de dépendance les allocataires de ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire l'allocation personnalisée à l'autonomie, hein, qui a été créée pour aider à prendre en charge la dépendance des personnes âgées, qu'elles soient à leur domicile ou qu'elles soient en institution. On voit qu'il y a quand même 1 million de personnes en France qui sont bénéficiaires de cette allocation. Le coût pour la collectivité est d'un peu plus de 15 milliards d'euros. Et ça, c'est uniquement pour la collectivité. Ça ne prend pas en compte, bien évidemment, les coûts pour les familles, hein, qui sont au moins égaux à 15 milliards d'euros. Donc on se trouve quand même si on considère que dans l'ensemble, la population des plus de 60 ans est en bonne santé, et ça c'est vrai dans tous les pays d'Europe, on considère quand même qu'on a une équation à résoudre dans nos pays. Alors quels peuvent être les termes de cette équation ? On sait que premièrement, la population âgée augmente dans tous les pays. On l'a vu. On sait deuxièmement, je vous l'ai montré sur le schéma, que la dépendance augmente avec l'âge. Mais on sait aussi, troisièmement, que la dépendance diminue à chaque âge donné. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, en 2007, on est moins dépendant à l'âge de 80 ans qu'on ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Hein, ça diminue à chaque âge donné. Donc, c'est simple, ce qu'il faut réduire, il faut que l'augmentation de la population âgée soit contrebalancée par la diminution à chaque âge de la dépendance, de telle sorte que le nombre de personnes dépendantes reste stable, voire diminue progressivement. Eh bien, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objectif qui peut être atteint si la prévention médicale et sociale est massivement développée dans nos pays. C'est pas si simple de développer la prévention, mais elle existe et on a beaucoup de témoins d'études qui montrent qu'elle est opérationnelle et qu'elle marche. J'en veux pour preuve cette courbe qui montre la baisse annuelle des taux de prévalence de la dépendance lourde, cette fois-ci, à chaque âge, entre les années 90 et 99. En très plein en haut, vous aviez la dépendance attendue, hein, la diminution des taux de dépendance attendue, en fonction des diminutions antérieures. Et vous avez en trait, avec les petits carrés, la diminution qui a été observée, et particulièrement aux âges élevés. Eh bien, vous voyez que la diminution de la dépendance observée est supérieure à la diminution attendue. Ce qui veut dire que chaque fois que vous mettez en place des systèmes de prévention, et il est clair que notre système de santé doit passer du système centré sur le curatif vers le préventif, c'est évident. Alors, quelles sont les étapes de cette prévention ? Quand on considère la population âgée, enfin, disons de plus de 60 ans, les étapes de la prévention, elles sont de trois ordres. Il y a d'abord la prévention primaire qui doit être faite tout au long de la vie. Deuxièmement, la prévention secondaire chez les personnes qui sont âgées, autonomes, mais ce qu'on appelle fragilisées, ce que les Américains appellent le frail elderly. Ces personnes sont autonomes, mais à risque de basculer dans la perte d'autonomie en cas d'une maladie aiguë en particulier. Et là, nous le verrons, il faut une filière, un système de santé de filière complète et exemplaire. Il faut une intégration familiale et sociale et il faut aussi des revenus suffisants. On peut craindre que si les pensions de retraite diminuent dans notre pays, nous verrons réapparaître une augmentation de la dépendance à chaque âge. Et enfin, il faut une prévention tertiaire de la progression de la dépendance chez les personnes qui sont déjà atteintes, puisque je vous le disais, en France, c'est un exemple, il y a 1 million de personnes en France qui sont atteintes de perte d'autonomie. Là, il faudrait une prise en charge médicale et médico-sociale d'excellence, ce qui n'est pas toujours le cas, et des innovations sociales intégratives sur lesquelles je n'aurai pas le temps malheureusement de m'étendre. Alors quand on voit la prévention primaire, ce n'est pas si simple, hein, la prévention primaire, parce qu'il y a deux facteurs d'hétérogénéité inter-individuelle et intra-individuelle du vieillissement. Il y a deux facteurs principaux. D'une part, l'hétérogénéité génétique, et c'est bien pour ça que quand on compare les dépenses de santé et le résultat sur la longévité, il y a quand même des facteurs confondants qu'on ne prend pas en cause, et il y a des facteurs d'environnement. Alors, les facteurs génétiques, ils existent. On sait très bien que 30% des gènes qui codent pour les enzymes et autres protéines sont polymorphiques. Nous n'avons pas les uns et les autres, et de pays à pays, les mêmes gènes. Et on sait aussi qu'il y a une accumulation de mutations génétiques dans les cellules somatiques tout au long de la vie. Donc, ces facteurs génétiques sont là. Pour l'instant, on n'intervient pas sur ces facteurs génétiques. Peut-être pourrons-nous le faire un jour. Ça n'est pas le cas. Le deuxième type de facteurs, ce sont les facteurs d'environnement. Essentiellement le niveau socio-économique dont nous avons déjà parlé, qui explique en particulier les différences nord-sud, mais qui explique aussi les différences à l'intérieur d'un même pays. Et deuxièmement, les progrès de la médecine, en particulier sur le plan de la prévention, mais aussi de l'accès aux soins. Hein, les deux comptent. Alors, quand on voit les différences d'espérance moyenne de vie, là, j'ai gardé les statistiques de 2000 parce que je n'avais pas les ultérieurs pour les pays, en particulier africains. C'est là on voit la différence écrasante d'espérance moyenne de vie entre le Japon, par exemple, le Brésil, qui est pourtant un pays super développé maintenant, le Kenya, et enfin le Zimbabwe et le Malawi. Mais il faut dire aussi que ce sont des populations qui ont été décimées par le sida et que ce n'est pas seulement le niveau économique qui compte. Si ce n'est qu'il y a là encore une corrélation entre ce niveau socio-économique et la façon dont le sida est probablement abordé dans ces pays. Alors, quand on parle de prévention tout au long de la vie, j'ai listé ici la majorité des maladies qui sont source de ces pertes d'autonomie. Ce sont les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les démences, et en particulier la maladie d'Alzheimer, les cancers, les arthroses, l'ostéoporose, les problèmes orthopédiques, en particulier les fractures, et les troubles sensoriels. Il y en a d'autres, mais disons que ce sont les grands facteurs de perte d'autonomie. Ben, ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs on le sait très bien, c'est que la majorité de ces maladies sont dépendantes de facteurs de risque et donc accessibles à la prévention. Et on a vu déjà des progrès très considérables par la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires, des facteurs de risque sur le plan de l'ostéoporose. Alors, ce qu'il faut savoir, quand je dis que c'est tout au long de la vie, c'est que les coronaires, par exemple, elles se préservent déjà dans les cours d'école en empêchant les enfants de fumer dans les cours de récréation. Moi, j'étais absolument abasourdi quand les enseignants m'ont dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, on ne fume pas dans les classes, mais jusqu'à présent, on permettait aux enfants de 10 à 12 ans de fumer dans les cours de récréation. » Ça commence là, la prévention cardiovasculaire, en luttant aussi contre l'obésité. Il y a eu une présentation remarquable hier sur l'obésité. Quand on prend l'exemple de l'ostéoporose, certes, nous avons des médicaments remarquables de l'ostéoporose, mais c'est bien avant qu'il faut prévenir l'ostéoporose. Là encore, il faut encourager l'activité physique chez les jeunes filles et le fait d'avoir une ration calcique suffisante. Une femme sur deux en France est carencée en calcium parce qu'on tient notre ligne, on ne boit pas de lait, on ne mange pas de fromage, etc. Une femme sur deux. C'est dire à quel point... plus qu'une prise en charge médicale stricto sensu, où il faudrait donner des médicaments, bien évidemment, il faut en donner quand c'est nécessaire, c'est plus le style de vie tout au long de la vie qui peut entraîner une diminution de ces maladies. Alors cette prévention, elle va être magnifiée grâce aux progrès en cours, mais enfin, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tôt, ni jamais trop tard. Je plaide pour une prévention tout au long de la vie, mais la prévention, après 60 ans, elle est opérationnelle aussi sur un certain nombre de facteurs de risque, comme vous le savez. Le vrai problème des années qui viennent, quand on parle de dépendance, de nécessité de soins de longue durée pour les personnes âgées, ça va être quand même le problème de la démence et en particulier de la maladie d'Alzheimer. Vous avez ici une courbe de tous les pays et on voit bien qu'à partir de 80 ans, on a une augmentation drastique de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et c'est ça qui va faire le gros lot, finalement, de maladies qui seront à prendre en charge au long cours dans les années qui viennent, si l'espérance moyenne de vie continue à augmenter comme c'est le cas. Quand on a la chance de vivre après 80 ans, on a aussi le risque de développer une maladie de ce type. Et d'ailleurs, quand on voit, il y a eu un article récent dans le Lancet qui dénombrait le nombre de patients atteints de démence dans le monde, eh bien, il faut savoir que maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, il y a environ 4,6 millions de nouveaux cas par an de maladie d'Alzheimer dans le monde, ce qui veut dire un cas toutes les 7 secondes. Donc c'est véritablement un problème qui doit plaider en faveur d'une recherche massive en neurosciences de façon générale et probablement sur la maladie d'Alzheimer en particulier. Et quand on voit comment ça se passe en France sur le plan de l'allocation, cette fameuse allocation à l'autonomie, eh bien on voit que 72% des allocations d'autonomie sont données à des personnes qui sont atteintes de démence ou de maladies apparentées. Et de même, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, 70% des institutionnalisations, c'est-à-dire des passages soit en long séjour, soit en maison de retraite médicalisée, sont liés encore aussi à une démence ou une maladie apparentée. Ce qui veut dire que si on arrive, grâce au progrès de la recherche, à limiter l'incidence de la démence ou à la reculer dans le temps, puisque l'on sait que si l'on diminue, si on recule de 5 ans l'apparition d'une maladie d'Alzheimer, on diminue la prévalence par 2, dans la mesure où c'est une maladie liée quand même à l'âge. Eh bien, si on arrivait à trouver un moyen de réduire cette incidence, eh bien, on vide 70% des institutions et on s'économise 70% des allocations d'autonomie. Donc l'enjeu économique est quand même important. Alors, est-ce qu'il y a une prévention des démences ? Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la prévention des autres maladies qui est bien connue. Il y a un certain nombre de facteurs de risque que l'on connaît bien, en particulier le niveau d'éducation, les facteurs génétiques sur lesquels, bien évidemment, on n'intervient pas encore, mais on sait que les facteurs vasculaires, et en particulier l'hypertension artérielle, sont des facteurs de risque de démence de façon générale et même de maladie d'Alzheimer. Alors, il y a un certain nombre d'approches préventives de ces démences, mais vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation pratiquement à chacune de ces approches, car pour l'instant, il n'a pas été prouvé que les œstrogènes, les anti-inflammatoires, les antiradicalaires et même les statines, et pourtant il y a des arguments forts pour penser que les statines pourraient avoir un rôle, pour l'instant les essais contrôlés, mais qui n'avaient pas la démence comme critère primaire, n'ont pas démontré que ces approches étaient opérationnelles. En revanche, les antihypertenseurs ont démontré qu'on le pouvait, de même que l'on réduit les strokes et les maladies cardiovasculaires. Deux essais ont montré, mais il faudrait qu'ils soient répliqués pour avoir davantage de données, une diminution de la démence quand on abaisse les niveaux de pression artérielle. Bien évidemment, le futur, ce sont les médicaments dits anti-amyloïdes. Vous savez que la maladie d'Alzheimer est caractérisée par deux lésions, d'une part au niveau du cerveau, d'une part ce qu'on appelle la plaque amyloïde, qui est faite d'un cœur, d'une protéine qui a été maintenant parfaitement identifiée et séquencée, dont on pense que le dépôt, d'abord la fabrication par l'organisme et le dépôt est probablement, c'est une hypothèse, le primum movens de la maladie. Et d'autre part, il y a une autre lésion qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire, pour laquelle il existe une autre protéine. Et à l'heure actuelle, les recherches, en particulier d'inhibiteurs, se portent essentiellement sur la théorie amyloïde, mais il y a aussi une autre hypothèse qui s'adresse à l'autre lésion, qui est la dégénérescence neurofibrillaire. À l'heure actuelle, les inhibiteurs de secrétase qui empêcheraient cette fameuse protéine amyloïde de se former sont en cours d'expérimentation. Hein, ils ne sont pas encore en phase 3. Et enfin, vous avez le vaccin, dont on peut dire un mot dans un instant. Je voudrais revenir avant sur le traitement antihypertenseur et les démences. Deux essais randomisés, placebo contrôlés, ont montré que le traitement de l'hypertension artérielle réduisait ce risque de démence. Mais ces deux essais, à mon avis, doivent être repliqués et c'est un enjeu important. Quand on revoit le vaccin anti-amyloïde, ce terme de vaccin d'ailleurs n'est pas tout à fait propre, il a été basé sur un travail très très intéressant de Dale Schenck aux États-Unis, qui a utilisé des souris transgéniques, et vous voyez sur la partie gauche la petite souris transgénique dont le transgène a permis de fabriquer, cette souris fabrique la protéine amyloïde humaine et la dépose au niveau de son cerveau, et c'est vrai que la lésion qui est ici ressemble fort à la lésion que l'on observe au niveau de la plaque amyloïde seulement chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et Schenck a eu une idée totalement simpliste, je dois dire qu'on n'y croyait pas quand il a émis cette idée, qui est de dire, si j'injecte cette protéine amyloïde à mes souris transgéniques qui la produisent et qui déposent la protéine amyloïde et font des lésions typiques de la maladie d'Alzheimer, si j'injecte cette protéine en quantité suffisante, est-ce que je ne vais pas déclencher une réaction immunitaire massive qui permettrait à la souris, en quelque sorte, de se débarrasser de ces lésions, voire de ne pas les produire? Et effectivement, c'est le cas, vous voyez, sur la droite, le cerveau de la petite souris qui a été vaccinée par la protéine amyloïde humaine, et on voit que ce cerveau est vierge. Alors, quand on a vu ça, c'est vrai qu'on a été tous absolument abasourdis, et on est tous passés très vite à l'expérimentation humaine. Vous savez qu'il y a eu un grand essai, qui a été un essai mondial, hein, tout le monde a travaillé en même temps, qu'on a coordonné sur le plan français à l'hôpital Broca, sur 300 patients. Mais comme vous le savez aussi, il y a eu une réaction immunitaire massive qui a été développée au-delà de l'espérance et le développement de 17 encéphalites sur 300 patients. 17 encéphalites qui fait que l'essai a été interrompu. Mais ils vont recommencer dans les semaines qui viennent, puisque les chercheurs ont considéré que si on n'injecte pas la protéine amyloïde, mais un fragment de cette protéine, on pourrait peut-être arriver au même résultat sans avoir la réaction qui a provoqué des encéphalites. Bon, après de longues discussions avec les agences de médicaments, ces essais vont commencer. Alors, on n'est pas sûr, bien évidemment, que ces essais vont donner un résultat, mais si je vous montre ça, c'est bien pour vous montrer qu'un jour, il y aura probablement un traitement et une prévention de cette maladie, et que dans ce cas-là, la perspective du grand vieillissement sera totalement différente. Et quand on essaye de prévoir à 30 ans le nombre de dépendants, à mon avis, on fait une faute majeure, car bien, bien malin serait celui qui pourrait dire quel sera l'état des connaissances dans ce domaine des neurosciences dans 30 ans. Alors, Pour vous montrer que la prévention, ça marche, c'est une diapo que je montre très très souvent dans des instances où il n'y a pas de médecin et où on a une certaine réticence à penser que la prévention pourrait être utile. Vous avez ici les gains de santé en Europe durant les trois dernières décades. Et bien, vous voyez qu'en Europe, on a gagné 8,4 ans d'espérance moyenne de vie. Vous voyez que la mortalité prématurée par cancer a diminué de 12%, mais que certains cancers, comme vous le savez, augmentent. Voyons plutôt les cardiopathies ischémiques, diminution de 42%, mortalité par stroke, 57%, etc. Mortalité par diabète a diminué aussi, mais probablement par une meilleure prise en charge de diabète, parce qu'on sait que le diabète de type 2, en tous les cas, augmente. Donc on voit très très bien que les gains de santé existent dès que l'on commence à travailler dans le domaine de la prévention. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les sources de la réduction de la mortalité. Et c'est une étude qui est très intéressante, qui essaye d'imaginer les pourcentages de contribution d'un certain nombre de facteurs aux gains de santé. Alors si on prend par exemple n'importe lequel, prenons l'espérance moyenne de vie des hommes à la naissance. Qu'est-ce qui a permis d'augmenter cette espérance moyenne de vie? Eh bien, vous voyez que le niveau économique, qui est certes important, compte pour 20%, mais il ne compte que pour 20%. Que ce qui compte, c'est le niveau d'éducation des femmes. Et pourquoi le niveau d'éducation des femmes? Parce que ce sont les mères. Alors, je crois qu'on pourrait dire maintenant le niveau d'éducation des jeunes parents, car les jeunes papas s'occupent autant de leurs enfants que les jeunes mamans. Mais vous voyez que ça compte pour 30%, ce qui est énorme. Ça veut dire que dans l'ensemble des pays, en particulier dans les pays en voie de développement, il faut augmenter le niveau d'éducation, le niveau d'éducation qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Il faut augmenter le niveau d'éducation de la population de façon générale, parce que 50% est lié au fait d'utiliser les nouvelles connaissances. Donc c'est un plaidoyer en faveur de l'éducation. Ça, c'était donc la prévention primaire. Et on voit quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette prévention primaire. La prévention secondaire chez les personnes autonomes mais fragilisées, eh bien, il faut totalement réformer notre système de santé de telle sorte que les personnes âgées, voire très âgées, soient bien prises en charge dans le système hospitalier. Vous voyez que l'hospitalisation est fréquente. Les personnes âgées représentent un tiers des séjours hospitaliers et deux tiers des admissions en urgence. Or, on sait à quel point l'hospitalisation est un risque pour les personnes âgées qui sont en voie de perte d'autonomie. Il faut donc révolutionner l'hôpital et l'adapter aux personnes âgées en créant ce que nous appelons, nous, des filières gériatriques, ce qui pourrait être geriatric networks, c'est-à-dire des services de médecine gériatrique en aval de toutes les urgences, des services de court séjour gériatrique, des hôpitaux de jour pour examiner les patients en dehors d'un milieu hospitalier, des équipes mobiles, des soins de rééducation, des soins de longue durée. Donc il faut qu'à tout moment des besoins de la personne âgée, on puisse l'orienter immédiatement vers le service dont elle a besoin. Et il faut articuler cette filière qui est sanitaire avec la médecine de ville et la filière médico-sociale, c'est ce qu'on appelle les réseaux de santé. Et tant qu'on n'a pas fait dans chaque point du territoire d'un pays cette filière gériatrique complète, on n'aura pas une prise en charge cohérente de cette partie de la population. Or, cette partie de la population peut basculer totalement dans la dépendance, alors qu'on peut prévenir cette dépendance par une prise en charge hospitalière du système de santé adéquate. Quant à la prévention tertiaire et la prise en charge de la dépendance, ça c'est le problème de chaque pays. Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, Didier Tabuteau a parlé des risques. J'ai été étonné qu'il ne parle pas des risques de la canicule. Parce que vous savez que la canicule, en 2003, a entraîné un excès de mortalité qui a été évalué à 15 000 personnes. Et la majorité des mesures qui ont été prises en faveur des personnes âgées ont été prises après la canicule, c'est-à-dire après ces 15 000 morts. Donc vous voyez que pour prendre en charge les patients dépendants, eh bien, il faut créer énormément de places supplémentaires. Je donne là quelques exemples du nombre de places qui sont à créer et qui sont créées maintenant par an grâce à une augmentation considérable du budget des crédits d'assurance maladie qui ont été augmentés de 13% pour cette partie de la population. Alors c'est un défi financier et sociétal parce que l'allocation dépendance dont je vous ai parlé ne suffit absolument pas à compenser les frais de la dépendance lourde lorsqu'une personne est atteinte. Vous savez que cette APA est basée, on a d'ailleurs copié sur le système allemand, et moi je me réjouissais qu'on fasse ça, elle est basée sur une partie assurance maladie, mais sur la journée de solidarité. Hein, on travaille un jour supplémentaire pour payer le long-term care des personnes âgées. Alors je dois dire que cette journée de solidarité a rencontré un franc succès en France, ça je peux vous le dire, surtout le lundi de Pentecôte, où ça a été institué la première année. Et pour ça, c'est absolument indispensable, et à mon avis, moi, il en faudrait deux. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, même s'il y en avait deux. Vous savez qu'on a mis sur pied des services très différenciés à la personne qui sont extrêmement intéressants dans deux objectifs. D'une part, pour lutter contre le chômage parce que c'est un réservoir d'emploi, et deuxièmement, pour améliorer la condition des personnes qui sont au domicile. Donc, ils vont améliorer les conditions du soutien à domicile, mais il faut en assurer le financement pour l'avenir. Pour l'instant, ça n'est pas fait. Alors, comment peut-on faire pour assurer le financement solidaire de la dépendance pour l'avenir ? Bien, il y a eu une mission faite par un conseiller d'État tout à fait remarquable, qui était une réflexion sur les modalités de financement supplémentaires. On va vers un cinquième risque de la protection sociale, ce qui ne veut pas dire un cinquième risque de la sécurité sociale. Hein. Ce sera probablement un risque à part, mais enfin, les choses ne sont pas déterminées encore. Mais il est clair, quand on voit l'assurance, la long-term care insurance du Japon, que pour avoir un financement correct de la dépendance, ben il faut que chaque citoyen paie 30 euros par mois à partir de 40 ans. C'est ce qu'ils ont évalué dans l'assurance japonaise. C'est d'ailleurs en augmentation. Alors, c'est 30 euros par mois, soit ce sont des assurances personnelles, des assurances complémentaires, soit c'est l'État, soit c'est les taxes, soit c'est la CSG. Il faudra choisir, mais si on veut assurer ce financement de la dépendance, c'est à peu près ce que ça coûte. Cela dit, une protection sociale accrue ne peut être basée que sur une activité économique accrue dans un pays. Hein, si l'activité économique n'augmente pas, il n'y aura pas de protection sociale accrue, et en particulier des plus de 50 ans et des plus de 60 ans. Alors, je voulais vous montrer ici, regardez simplement la dernière colonne, les taux d'activité, c'est-à-dire d'inclusion dans le circuit économique en Europe. Ben, vous voyez que nous, on est les super champions en France. Hein. 7% seulement des hommes et 4% des femmes sont en France dans le circuit économique après 60 ans. Et quand vous comparez ça à d'autres pays européens, l'Allemagne n'est pas excellente non plus. Hein. 12% des hommes et 12% des hommes et 3% des femmes sont dans le circuit économique après 60 ans. Mais comparons la France et l'Allemagne à deux pays européens qui sont comparables, mais avec des systèmes politiques qu'on peut qualifier un peu de différents. Je dirais que le UK, l'Angleterre, a un système plutôt libéral. La Suède a un système plutôt sociodémocrate, donc c'est des systèmes politiques un petit peu différents. Eh bien, ils arrivent à des taux qui sont bien supérieurs. 23% des hommes en Suède travaillent et en UK, 21% des hommes. Et bien sûr, dans d'autres pays, vous voyez qu'au Japon, 51% des hommes travaillent, mais ça, c'est lié aussi au système des retraites qui est totalement insuffisant. Et en Chine, 45%, mais ça, on ne peut pas se comparer à ces pays-là. Enfin, il est clair, et c'est bien pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les taux de dépendance de 60 à 69 ans. Ils sont de 2%. Ça veut dire que 98% de la population est dans l'ensemble en très bonne santé. Alors c'est clair que cette population pourrait être réintégrée si nos systèmes économiques le permettaient, et s'il n'y avait pas les freins que l'on connaît, qui sont à la fois du côté de la population et des entreprises, on pourrait réintégrer davantage de population. Alors, je trouve que cette plaque est quand même impressionnante. C'est l'évolution de l'espérance moyenne de vie que vous voyez en rouge, voilà, en France, des années 60 aux années 2000. Vous voyez, magnifique, hein, c'est 80 ans maintenant. Et l'évolution de l'âge de la cessation d'activité. Donc, vous avez deux courbes qui sont totalement inversées. Et on sait que l'âge de cessation d'activité en France à l'heure actuelle est de 58 ans. Alors, augmenter la progression sociale, la protection sociale, qui est quand même basée sur l'activité économique et l'emploi, sur un système où la cessation d'activité est à 58 ans, eh bien, moi, je plains les économistes qui vont réussir à faire ça. Alors, quelquefois, on dit, ben oui, mais c'est parce qu'on s'arrête tôt, qu'on était en bonne santé, on n'aurait pas cette espérance moyenne de vie si on travaillait. C'est absolument l'inverse. Vous voyez ici le risque de mortalité selon le statut. Et si vous comparez aux actifs occupés de 1, vous avez 5 fois plus de risques dans la population inactive de même âge. Alors là, bien évidemment, il y a des biais dans la mesure où si on est inactif, c'est aussi parce qu'on a un certain nombre de maladies. Mais quand on voit les chômeurs, qui n'ont pas nécessairement choisi d'être inactifs, vous voyez que la mortalité des chômeurs est 3 fois supérieure. Là aussi, on peut considérer que le chômage entraîne un risque de précarité. Mais enfin, quand même, vous voyez que ceux dont le risque de mortalité est le plus faible, ce sont les actifs occupés. Alors, on connaît cette courbe qui est la courbe qui relie l'espérance moyenne de vie avec les revenus économiques. Là, c'est l'income per capita. Il y a toujours une corrélation, bien évidemment, qui a été reconnue dans tous les pays. Alors, le sens de cette corrélation, habituellement admis, et c'est vrai, c'est que plus vous avez un niveau économique élevé, plus vous avez un accès aux soins, donc une espérance moyenne de vie augmentée. Mais ce qui est intéressant, et un certain nombre d'économistes l'ont démontré, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus vous avez une espérance moyenne de vie élevée, plus le niveau, la progression économique d'un pays est grande. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce côté de cette corrélation. Et là, il y a eu plusieurs études, une étude de l'OMS qui avait montré que l'état de santé mesuré par l'espérance de vie est un prédicteur significatif de la croissance économique. C'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'un pays est vieux qu'il y a une décroissance économique, c'est le contraire. Et dans les pays à espérance moyenne de vie supérieure de 5 ans, ça c'est Bloom et Canin qui ont comparé deux pays, les revenus per capita vont croître de 0,3 à 0,5% plus rapidement dans le pays qui a l'espérance moyenne de vie la plus élevée. Donc l'espérance moyenne de vie élevée n'est pas un facteur de décroissance économique, comme c'est très souvent dit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En tous les cas, il faut promouvoir l'emploi des seniors, c'est une priorité absolue. Il faut d'abord promouvoir massivement le maintien dans l'emploi des plus de 50 ans, ce qui n'est pas le cas en France. Il faut prolonger la vie professionnelle au-delà de 60 ans, avec un certain nombre de mécanismes là qui sont des mécanismes français. Et enfin, on nous a montré tout à l'heure une spirale vertueuse. Et moi, je vous montre aussi une spirale vertueuse, qui est qu'il faut probablement déjà partir de la santé. Plus vous faites de l'investissement dans la santé et la prévention, plus vous augmentez la longévité. Plus vous augmentez la longévité, plus vous pourrez augmenter l'activité si les circonstances de votre pays sont possibles, plus vous augmentez la prospérité. La prospérité, on le sait, améliore les niveaux d'éducation. Le niveau d'éducation améliore la prévention. La prévention améliore la santé. Et on reste dans ce circuit. Qui fait que quelles sont les clés finalement d'une longévité chaleureuse et productive? Moi, je pense qu'il faut développer de façon massive la recherche sur la longévité, pas seulement en neurosciences d'ailleurs, mais dans tous les domaines de la longévité. Il faut développer massivement la prévention des maladies dites liées à l'âge. Il faut développer la gériatrie universitaire et de terrain. Il faut favoriser bien évidemment les liens familiaux, les échanges avec les plus jeunes. Il faut faire éclater les structures rigides et favoriser le vivre ensemble grâce au logement et à la prise en charge intégrée. Là, je vous dis, il y a de remarquables exemples. Et enfin, il faut cesser de croire que la longévité est un poids, alors que c'est une fantastique opportunité pour tous, et particulièrement pour la croissance économique et pour l'emploi. Je vous remercie de votre attention.